ce soir c'est fête, ce soir j'ai invité Mozart, Beethoven, Schubert et Rossini. Autour d'un verre, au chaud dans ma chambre, on va se jouer une petite mélodie.
Pour écouter Mozart, Beethoven, Schubert, Rossini et Tutti Quanti, c'est Tutti Quanti. Pour écouter des adagio, des allegro, des moderato et tutti quanti, c'est Tutti Quanti, votre magazine consacré à la musique classique de Radio MDM. Un magazine préparé par Alain Bont avec la technique à Arnaud. Arnaud qui d'habitude utilise plus une guitare et une basse électrique, mais qui là essaye de mettre des cordes en boyau sur sa guitare. Pourquoi donc ? Parce qu'il sait qu'aujourd'hui, nous allons parler d'un musicien étonnant, quelqu'un qui a un poids important dans l'histoire de l'interprétation, Nicolaos Arnoncourt. Pourquoi je parle de cordes en boyau en parlant d'Arnoncourt ? Arnoncourt est un des musiciens qui est revenu à ce qu'on appelle les instruments d'époque, en disant, mais si on joue de la musique du XVIIIe siècle, il faut le faire comme on le faisait au XVIIIe siècle, en reprenant les mêmes instruments. Et c'est vrai qu'au XXe siècle, un violon, par exemple, il est monté avec des cordes en acier, alors qu'au 18e, il était monté avec des cordes en boyau, ce qui n'a pas du tout le même son. Nicolaos Arnoncourt, il a vraiment révolutionné l'interprétation musicale. Il n'est pas le seul à le faire. En France, quelqu'un comme Jean-Claude Malgoire a le même type de recherche. Léonard aux Pays-Bas aussi. Enfin voilà, il y a plein de musiciens qui ont ce même type de recherche à partir des années 60. Mais vraiment, Arnoncourt, il est la figure de proue de ce qu'on a appelé les baroqueux. Il y a un enregistrement qui a vraiment fait date. C'est celui des concertos brandebourgeois de Bach. Un enregistrement qui est de 63 ou 64. Je propose tout de suite d'écouter le premier mouvement du troisième concerto brandebourgeois, donc celui qui ne rassemble que des instruments à cordes, trois premiers violons, trois seconds violons et trois alti, et trois violoncelles aussi, me semble-t-il. Voici donc ce premier mouvement du troisième brandebourgeois de Bach. C'est bien évidemment Nicolaos Arnoncourt qui dirige son ensemble, le Concertus Musicus de Vienne. Thank you. faut bien se rendre compte qu'à l'époque, dans les années 60, ce concerto brandebourgeois, par exemple, il pouvait être joué par l'Orchestre Philharmonique de Berlin, où il y avait 60 musiciens qui jouaient, et c'était beaucoup plus massif. La conception du son n'était pas du tout la même, la conception du phrasé n'était pas du tout la même. Depuis l'époque romantique, on avait pris l'habitude un petit peu de privilégier le legato, cette façon d'enchaîner les sons, et Arnoncourt dit, mais non, on voit bien dans les traités du 18e que c'est pas forcément ça qui est l'idéal du beau à ce moment-là, et il faut essayer de mieux respecter ça. Alors, la version pour cordes, elle passe assez bien tout de suite. Arnoncourt a été plus contesté, en tout cas dans les années 60, dès qu'on utilisait les instruments à vent, parce que les instruments à vent au 18e, ben, ils sont ce qu'on appelle aujourd'hui moins perfectionnés. Autrement dit, parfois, ils sont un peu moins justes. Il y a des choses qui frisent un petit peu, parfois, pour les oreilles. Je propose d'écouter tout de suite toujours le premier mouvement, mais cette fois-ci du premier concerto brandebourgeois, où il y a aussi des instruments à vent. Et vous allez entendre que, voilà, la justesse, elle est très relative.
Thank you.
C'était donc le premier mouvement du premier bande bourgeois de Bach. Alors, il faut être très très honnête. Aujourd'hui, les instrumentistes qui travaillent sur instruments anciens ont vraiment progressé. Les choses ont beaucoup évolué. Cet aspect justesse a pas mal évolué. Mais c'est quand même un acte fondateur extrêmement important. Alors, dès qu'on redécouvre des façons de jouer, ça permet aussi de redécouvrir des répertoires qui, eux, étaient un peu oubliés. Et bien évidemment, alors avec Bach, on était dans le baroque tardif. On va maintenant remonter sur le début du baroque, le début du XVIIe siècle, avec un compositeur qui a été souvent mis à l'honneur par Arnoncourt, Monteverdi. J'aurais pu choisir les opéras de Monteverdi, j'ai choisi plutôt le répertoire religieux et les Vêpres de la Vierge, qui est une œuvre qui date de 1610. On n'a pas très bien compris d'ailleurs la finalité de cette œuvre. A priori, Monteverdi, qui travaillait à l'époque à la cour de Mantoue, espérait se faire engager dans une cour beaucoup plus importante à Venise. Et donc voulait montrer tout ce qu'il savait faire dans ce répertoire des Vêpres. Les Vêpres, ce sont des psaumes qui sont mis en musique et entre les psaumes, des pièces un peu plus libres. On va commencer par un des psaumes, le Nisi Dominus. C'est donc Nikolaus Arnoncourt, toujours avec son ensemble, le Concertus Musicus de Vienne.
Yeah.
vient donc d'entendre un psaume mis en musique par Monteverdi, et puis donc dans ses vêpres, entre les psaumes, il y a des pièces plus concertantes. C'est par exemple le cas de celle qu'on va écouter, Pulchra S. C'est toujours, bien sûr, le même enregistrement d'Arnoncourt, avec toujours le même Concertus Musicus de Vienne. L'anniversaire d'aujourd'hui, on va rester dans ce baroque ancien, on va rester dans ce début du XVIIe siècle avec une pièce qui fait date. Alors, je ne suis pas sûr qu'elle vous fasse complètement rêver. C'est vraiment un anniversaire que ne fêtent que les musicologues très avertis, mais quand même, j'avais envie de partager ça avec vous. En 1624, Jean Titlouz édite des œuvres pour orgue. Alors, pourquoi c'est une date importante ? Parce que le fait d'imprimer des œuvres pour orgue était complètement nouveau à l'époque. C'était déjà une performance de réussir à l'éditer techniquement, parce que la graphie pour l'orgue était assez compliquée. Et donc, qui dit éditer, c'était aussi de montrer que les pièces étaient suffisamment importantes pour être vendues, puisque un éditeur ne se lance pas dans un projet s'il n'est pas sûr de rentabiliser son effort. Voici donc ces premières pièces éditées pour l'orgue. Il s'agit de psaumes finalement mis en musique, l'Ave Maris Stella. On écoute les versets 6 et 7 de cet Ave Maris Stella de Jean Titlouz. C'est interprété par des chanteurs, donc les chantres du roi, et puis un organiste, Yves Gérard Préfontaine. Vita presta pura. Paratutto, et vita te scelta. Nicolaos Harnoncourt. Alors Harnoncourt ne s'est pas contenté d'explorer le répertoire baroque avec la même rigueur en termes d'interprétation, donc toujours en essayant de trouver un lien très très étroit entre les instruments, la façon dont on en joue et ce qui se faisait à l'époque et dont on a des témoignages dans les traités, dans les manuels d'apprentissage, etc. On a des choses extrêmement claires qui sont demandées par les compositeurs. Donc Harnoncourt a exploré tout le répertoire classique et romantique. Et c'est justement cette jonction entre le classicisme et le romantisme que je voudrais vous faire écouter avec les trois extraits qui suivent. On va écouter trois mouvements de symphonie qui ont été composés successivement, à chaque fois 10 ans après la précédente. Le premier exemple, c'est Joseph Haydn avec la 96e symphonie. Symphonie qu'on appelle le miracle. Alors pourquoi on l'appelle le miracle? Parce que à la création de cette symphonie, vous savez que le public qui était au parterre était généralement debout et non pas assis comme dans les salles aujourd'hui. Et le public a eu la bonne idée de vouloir s'approcher de l'orchestre pour voir mieux, tout simplement. Et il a été particulièrement bien inspiré, puisque le lustre qui était au-dessus de lui est tombé. Et comme le public avait bougé, il n'y a eu finalement aucun blessé, alors que si le public était resté en place, ça aurait vraiment été dramatique. Tout ça s'est passé pendant cette symphonie, le miracle. Je propose donc d'écouter cette symphonie. Elle a été composée donc en 1795. On est donc à l'extrême fin du classicisme. Bien évidemment, c'est Nicolaos Harnoncourt qui la dirige. Cette fois-ci, non pas avec son ensemble, mais avec un orchestre beaucoup plus traditionnel, très constitué, et avec qui un encours a beaucoup travaillé, le Royal Concertgebouw Orchestra, autrement dit l'Orchestre d'Amsterdam. C'était donc le final de cette 96e symphonie de Haydn. Je vous le disais, on est là en 1795. On avance un tout petit peu dans le temps, 10 ans, 1805, et on arrive à Beethoven avec le tube parmi les tubes. Et je ne suis pas sûr, alors que nous sommes au 253e numéro de Tutti Quanti, de vous l'avoir passé une seule fois. On arrive à la 5e symphonie de Beethoven. Alors là, on est vraiment dans l'archétype de la symphonie romantique, alors qu'il n'y a que 10 ans avec Haydn. C'est tout à fait autre chose. On va bien sûr retrouver Harnoncourt, cette fois-ci avec son ensemble, le Concertus Musicus de Vienne. Et vous allez entendre la nervosité, la tension que Harnoncourt arrive à mettre dans l'interprétation de cette œuvre. Thank you. On va encore avancer dans le temps, encore une dizaine d'années supplémentaires. On va arriver en 1816. Il y a à Vienne un autre compositeur, tout à fait contemporain de Beethoven, qui est d'ailleurs un immense admirateur de Beethoven, mais qui aimerait bien faire de la musique à sa façon. Et il va s'y employer, et avec quel talent, avec quel génie, c'est bien sûr Schubert. Schubert, en 1816, crée sa cinquième symphonie à lui. Et vous allez voir qu'on est très très loin de la tension romantique. On est dans un autre univers. Voici donc le premier mouvement de cette cinquième symphonie de Schubert. C'est toujours, évidemment, Nikolaus Harnoncourt qui retrouve le Royal Concertgebouw Orchestra.
Thank you.
Parfois, dans nos cours, une image un peu sévère de quelqu'un qui râlait beaucoup, qui était très intransigeant sur la façon de jouer la musique. Il y a des textes où il est très, très polémique. C'est aussi quelqu'un qui adore toutes les musiques, qui adore s'amuser, qui adore partager. Il y a le fameux concert du Nouvel An à Vienne qui lui a été confié une année. Je vous propose d'écouter une page beaucoup plus récréative cette fois-ci. C'est une polka de Johann Strauss Jr., donc le fils Johann Strauss. Cette polka, elle s'appelle la Lucifer Polka. Et bien évidemment, là, Arnoncourt va retrouver l'Orchestre Philharmonique de Vienne, qui est quand même le grand spécialiste de cette musique.
Thank you. petites notes de musique qui vous font la nique du fond des souvenirs. Lève un cruel rideau de scène sur mille et une peines qui ne veulent pas mourir.
Une petite chanson pour terminer ce Tutti Quanti. Alors, il n'y a pas si longtemps, on célébrait l'anniversaire de la mort de Forêt. On va retrouver du Forêt, mais un Forêt, bah, vous allez l'entendre, un petit peu particulier. C'est un ensemble instrumental qui s'appelle BOM, qui a demandé à différents chanteurs de l'univers de la variété de reprendre des mélodies de Forêt. Celle que je propose d'entendre s'appelle « Ici-bas » et le chanteur, c'est Étienne Dao. Voici donc Étienne Dao qui chante « Forêt, ici-bas ».
Ici-bas, tous les lilas meurent, tous les chants des oiseaux sont courts. Je rêve, vous étiez qui demeure toujours. Ici-bas, les lèvres effleurent sans rien laisser de leur velours. Je rêve vos baisers qui demeurent toujours. Ici-bas, tous les hommes pleurent leurs amitiés ou leurs amours. Je rêve aux couples qui demeurent, aux couples qui demeurent, qui demeurent toujours.
C'était donc Étienne Dao, accompagné par l'ensemble BOM, un ensemble qui donc fait des arrangements et réinterprète un petit peu la musique. L'arrangement ici, il était fait par Simon Delmet. Et surtout, ça a plutôt réussi. C'est donc avec Étienne Dao que se termine ce numéro de Tutti Quanti. On se retrouve, si vous le voulez bien, dans 15 jours. Et d'ici là, portez-vous bien.
Ce soir c'est fête, ce soir j'ai invité Mozart, Beethoven, Schubert et Rossini. Autour d'un verre, au chaud dans ma chambre, on va se jouer une petite mélodie. Et sur les notes, on oubliera le monde qui n'en finit pas de tout.